Radio Barque 35e, troisième partie. Bonjour Marie Zarditi, rebonjour. On vous a entendu tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va faire allusion à votre expérience d'écologiste. Alors, tout d'abord, un petit historique assez succinct. Vous avez été élue municipale à Narbonne et puis régionale.
Voilà, oui, comme nous.
Voilà.
un demi-mandat à Narbonne, parce qu'on a été élu, alors à Narbonne, par le plus grand des hasards. Personne n'aurait mis un copec qu'on risquait d'être élu. Il y a eu un truc extraordinaire. On a fait un peu plus de 5%. Le maire a été élu au premier tour. Ben 5%, on avait un élu. Voilà. Donc,
c'était vous.
T'es tellement surprise que, alors, au bout de 3 ans, j'ai démissionné. J'ai dit à mon second, on se met d'accord. Au bout de 3 ans, c'est toi qui fais. On aura à peu près appris ce qu'on pouvait apprendre. Voilà. Donc, j'ai fait 3 ans. Puis, à la région, après, c'est un peu différent, puisque là, j'ai fait tout le mandat et j'ai eu une responsabilité. J'étais du côté de la majorité. Donc, j'ai été en charge de la formation professionnelle.
Alors, vous êtes dans le mouvement écologiste depuis pas mal d'années. Vous avez fait partie un petit peu des pionniers il y a 25 ou 30 ans, si je me souviens bien. Oui. D'ailleurs, on vous recevait déjà de temps en temps à la radio à l'époque. Et les choses, évidemment, ont beaucoup changé, en bien ou en mal, vous allez nous le dire. Première question, quel regard jetez-vous sur... Alors, l'écologie aujourd'hui, puis les écologistes, et le spectacle parfois pitoyable qu'ils donnent au niveau national.
Aujourd'hui, c'est pas brillant. Oui.
Alors, si vous me dites les écologistes de manière large, je vous dirais qu'il y a vraiment quand même deux éléments. Il y a les écologistes du monde associatif ou de la société civile, et il y a les écologistes politiques. C'est vraiment deux choses différentes.
Donc, vous faites bien un gros distinguo.
Ah oui, oui, oui.
Oui. Bon, alors, expliquez.
Alors, les écologistes politiques... ce qu'on voit aujourd'hui est un peu une catastrophe. Je le dis, hein, c'est une catastrophe parce que on a besoin qu'on entende la voix de l'écologie à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que au PS, il y a eu des gens qui ont essayé de l'intérieur de d'écologiser un peu le PS. Il y a des gens que j'en connais qui sont PS et qui sont écolos. Hein, puis je connais des gens de droite qui sont écolos. C'est vrai que voilà. Mais ils sont toujours tellement minoritaires dans leur parti qu'ils n'osent pas parler. Donc il y a besoin que d'autres puissent aussi porter la parole. Bon, ce qu'on voit aujourd'hui est une catastrophe. Moi, j'ai quitté ce parti il y a maintenant 10 ans. Je suis resté quand même plus de 20 ans. Hein. Je trouve ça très triste. Voilà, je trouve ça très triste et désolant. Alors, il y a une raison que je connais et que j'ai vue de l'intérieur, c'est qu'un tout petit parti qui fait tout à coup des scores importants... c'est plein de places d'élus qui vont se libérer peu comme possible. Et il suffit que quelqu'un qui a les dents un peu longues et qui arrive, dit voyons, et alors en plus, c'est un parti qui est en tendance. Quelle est la tendance là qui fait un bon score et qui n'a pas beaucoup d'élus? Ah ouais, t'es un celle-là. C'était celle que je présidais, que j'avais à l'époque. C'était ceux qui s'affirmaient écolos parmi les écolos. Oui, ceux-là, ils font toujours des scores pas si mauvais. Ils n'ont jamais le nombre de places d'élus qu'ils ont. Bon, alors je m'inscris dans cette tendance-là et en 3 coups de cuillère à peau, je monte. Les échelons, voilà, je monte, voilà. Donc bon, voilà, c'est un peu, en fait, voilà, j'en ai déduit quand même que j'étais pas faite pour faire de la politique. Ou plutôt, parce que moi je tire un bilan plutôt positif de mon passage à la région. Il y avait deux choses. Il y avait la partie purement politique, c'est-à-dire j'ai présidé le groupe, j'étais tellement mal à le présider que j'ai présidé 18 mois, et au bout de 18 mois, j'ai proposé à quelqu'un d'autre de prendre la présidence et dire je ne m'occuperai plus que de ce que je dois faire en tant que vice-président sur la formation professionnelle. Et sur la formation professionnelle, je tire plutôt un bilan positif et un regard positif du boulot qu'on a pu faire. Et j'en ai déduit en particulier que quand un élu, il veut bien bosser 60 heures par semaine et décider qu'il connaîtra à peu près tous ses sujets et que par ailleurs il s'entend pas trop mal avec son administration parce qu'il a il a suffisamment de respect pour elle et en même temps enfin etc. Et ben on peut faire bouger des choses. Voilà.
Donc, oui, ça c'est un regard positif sur la nécessaire conquête du pouvoir et l'aboutissement positif qu'elle peut avoir à l'occasion.
Oui voilà non mais c'est bon voilà c'est une expérience. J'ai pas fait au bout de 3 ans à Narbonne, je me suis dit c'est bon, j'ai fait le tour de ce qu'on peut faire en étant minoritaire et seul sur une liste et tout seul dans l'assemblée. Voilà.
Dans la région, vous aviez le pouvoir, comme vous l'expliquiez.
Un petit bout.
Et du pouvoir.
C'est une grande compétence. Si je puis me permettre, quand j'étais directeur général adjoint, j'avais entre autres dans mon portefeuille la formation professionnelle et l'apprentissage réuni. C'est une grosse compétence de la région, souvent sous-estimée d'ailleurs par les élus proches de l'exécutif. Pourquoi ? Parce que effectivement, on coupe pas des rubans, quoi, tout. Hein. C'est pas du béton.
C'est pas très spectaculaire.
C'est surtout que, enfin, je le sais très bien. Voilà, mais la formation professionnelle, c'est pas politique.
Exactement.
Voilà, c'est pas politique. Oui. Alors, le c'est pas politique, ça veut dire que c'est, en fait, on fait pas des scoops tous les matins.
Exactement.
Mais c'est vraiment, évidemment, éminemment politique sur le long terme. Bien sûr. Puisque c'est quel type de formation
c'est
on met en place.
C'est politique au sens
qu'on offre aux jeunes. Voilà.
C'est pas politicien.
Voilà. Donc, du coup, moi, j'avais quand même les coudées assez franches. À partir du moment où les gens vous font confiance, ils ont compris que vous ne ferez pas de coups tordus et que vous allez réellement essayer de travailler pour les 2,5 millions de citoyens qui étaient dans le Languedoc. J'en tire un regard positif. Surtout par rapport aux gens qui disent les élus, ça peut tout, et ou bien les élus, ça peut rien. Oui. Hein, on a les deux discours. Hein, c'est plus compliqué que ça. Les élus, ça peut des choses, ça peut pas tout, mais ça peut des choses. Voilà.
Il y a des invariants dans la gestion d'un territoire.
Voilà, mais aujourd'hui, donc...
Un mot quand même sur le... Parce que quand même, sur le reste, sur la société civile, sur les écolos associatifs, puisque maintenant je suis dans le monde associatif, hein, aussi bien au niveau local avec Éclat, au niveau régional avec la Fédération régionale de France Nature Environnement, puis au niveau national France Nature Environnement, où j'ai pendant 4-5 ans piloté deux réseaux thématiques, les réseaux risques industriels et les réseaux énergie. Donc voilà, j'ai fait toute la gamme du côté écolo. C'est vrai que là... Moi, je me dis quand même, si je fais 30 ans d'histoire sur l'écologie, voire un peu plus, 86, oui, enfin, c'est ça, 30 ans, il y a des discours qu'on tenait il y a 30 ans, on se faisait rire au nez, ou traiter de gentils stupides,
ou d'utopiste
mondialiste,
c'est ça.
Etc. Et aujourd'hui, voilà, quand même, une part non négligeable de la population a commencé à intégrer l'idée que les déchets, ça doit se gérer, que les pesticides, il faut peut-être pas en mettre trop, que à mon gamin, maintenant qu'il a 2 ans et qu'il est là, je vais faire attention à ce que je lui donne à manger, je préférerais qu'il n'y ait pas trop de résidus dans ce qu'il mange. Enfin, voilà, on sent qu'il y a quand même cette prise de conscience à monter. Moi, je trouve ça... Voilà, aujourd'hui, plus personne vous dit que vous êtes des idiots et des do-rêveurs quand vous parlez d'écologie.
Après,
Donc des choses ont bougé quand même.
Incontestablement.
Oui, donc la difficulté peut-être, parce que les gens forcément associent tout ça, c'est de bien faire le distinguo entre ce spectacle affligeant de gens qui se disputent ou qui quittent le mouvement, un mouvement qui justement, vous lisiez tout à l'heure, a fait parfois des scores impressionnants, puis est retombé très bas, ce qui suscite des vocations contrariées. Mais aujourd'hui, sur le plan national, on a l'impression que l'écologie est en train de mourir, en tout cas
l'écologie politique.
Les politiques, bien entendu. Au point d'ailleurs que le Canard Enchaîné ironisait il n'y a pas longtemps en disant « ils vont se rebaptiser Europe Nécrologie Les Verts ». Bon, c'est du Canard Enchaîné. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une observation réelle. Et alors vous dites aujourd'hui, d'abord, vous avez fait remarquer le progrès des idées écologistes et dans la société complète, et non pas seulement politique. Mais vous tenez à affirmer le distinguo sur les politiques et puis les associatifs dont vous continuez à faire partie. Donc aujourd'hui, malgré ce spectacle et cette faiblesse politique à Paris, dans la capitale, que peuvent faire les écologistes associatifs ?
Ah ben, on fait un boulot très considérable, même s'il ne se voit pas beaucoup. En tout cas, au sein de... si vous voulez, le travail du monde associatif, c'est sur le plan, je dirais, c'est un peu vrai du local au national, mais après avec des poids différents. Il y a d'une part, il s'agit à la fois de s'opposer aux projets les plus destructeurs localement. Voilà, quand on va mettre un 18e supermarché à un endroit où il y en a déjà 17 à côté, que franchement, c'est peut-être le moment d'arrêter. Des choses comme ça. D'autre part, participer au dialogue environnemental quand on vous ouvre des lieux de discussion, y aller, essayer de convaincre, essayer de rencontrer les hommes politiques, leur dire que ce que vous souhaitez, etc. Et puis, pour une partie d'entre eux, faire de l'éducation à l'environnement, c'est souvent une partie complètement à part. Les gens qui font de l'éducation à l'environnement sont souvent un peu un groupe à part, voilà, plus d'ailleurs bien financé en général par les collectivités territoriales, puisqu'il faut que voilà, faut faire de l'éducation à l'environnement aux enfants. Tout. Bon, voilà. Et puis il y a aussi un travail au niveau national. Alors il y en a un que j'ai vu, puisque là il y a eu 3-4 ans où j'étais presque à moitié du temps à Paris, c'était au moment du débat énergie et de la loi énergie, puisque là je pilotais le réseau de France Nature Environnement sur l'énergie. On a fait un travail d'enfer, c'est-à-dire qu'on a proposé sur cette loi, on a proposé 90 amendements, et pour une fois on a réussi à en faire passer plus de 20-25, alors que souvent on en fait passer 1 sur 10 ou voilà maximum quoi. On a fait un vrai travail. Bon, et là ce travail il est forcément relayé, et là on va voir tous les députés de droite, les députés de gauche, les députés écolos, alors on a plus vu les députés, on a vu un peu les sénateurs, mais plus les députés puisqu'ils ont la dernière main. Et que là, il a fallu aller jusqu'à la dernière main. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est du travail du monde associatif. Pour moi, je crache pas sur les politiques, hein, faut être clair. Quand je vois ce qui se passe dans le Parti des Verts, je pleure plutôt que de les insulter. Voilà, hein, c'est clair. Je crache pas sur les politiques, on en a besoin. J'en ai fait partie, je sais ce que c'est un peu de l'intérieur. Je pense qu'on ne devrait pas, à partir d'un certain âge, on devrait laisser la place. Je crois que si j'avais voulu refaire un deuxième mandat à la région, j'aurais pu, absolument, aucun problème. J'ai eu la proposition de retourner, et on m'a même dit mais si tu ne veux plus la formation professionnelle et que tu préfères l'environnement, il n'y a pas de problème. Donc j'ai eu la proposition. Je me suis dit, à un moment donné, je veux dire 70 ans, ça devient raisonnable de passer la main et de laisser. Voilà. Et donc voilà. Mais voilà, mais ce que je voudrais dire, c'est que je crache pas sur les élus, ni sur les politiques. Alors des fois, il y en a, quelques-uns, ça va, quoi. Mais voilà, je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté.
Mais quelques-uns, vous précisez et vous relativisez.
Ben oui, voilà.
Ouais, ouais. Le problème, quand même, c'est qu'aujourd'hui, au plan national, c'est, j'allais dire, c'est la coupole, quoi. Hein. C'est la tête des Verts qui est en jeu, quoi. La tête politique, j'entends.
C'est ceux qui sont visibles médiatiquement.
Voilà,
aussi.
Aujourd'hui, ne reste pratiquement plus, enfin, vous allez peut-être me reprendre, que la frange, j'allais dire, extrême gauche, vraiment radicale, quoi, verte, qui tient le Parti des Verts. Pour le reste, bon, ils sont tous partis vers le PS ou ailleurs. Hein, et là, bon, on voit bien que cette crise de la représentation politique qui touche tout le pays, et touche aussi les Verts comme la gauche, et que, à l'évidence, hein, pendant les présidentielles, probablement, on va commencer à entendre un discours sur la restructuration ou la recomposition de la politique française, mais elle se fera de toute façon, quel que soit le gagnant présidentiel, avant ou après, quoi, c'est sûr. Hein. Non. On peut pas rester en l'état, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est vrai, un vrai courant en fait, écologiste en France, au sens large du terme. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce qui reste du Parti des Verts le représente, enfin, politiquement, ce n'est pas vrai.
Alors revenons, il y a la politique politicienne, et revenons sur le fond, et vous disiez notamment votre action au quotidien, le monde associatif. Alors un exemple récent, l'eau du robinet dans l'Aude, récemment, on s'est aperçu qu'elle conservait un certain nombre de traces nuisibles. Ces traces sont toujours là. L'eau est quand même consommable ou consommée de toute façon. Comment réagissez-vous, vous, quand vous voyez ça? Est-ce que vous avez un sentiment d'impuissance ou vous vous dites finalement on a quand même parcouru une certaine longueur?
C'est-à-dire que donc maintenant, l'eau est un petit peu mieux surveillée. Donc effectivement.
Donc là c'est le verre à moitié plein.
On a repéré. Alors c'est des traces de résidus d'atrazine. Alors il y a eu toute une question pour savoir s'il y avait de l'atrazine, ce qui voudrait dire qu'il y a c'est relativement récent, ou des résidus d'atrazine, c'est-à-dire que l'atrazine qui reste se décompose et ça met un temps à se décomposer dans le sol, et donc on peut en trouver des résidus. Alors il semble qu'il y ait un peu des deux. On est au clair. Alors on va quand même être au clair tout de suite. On est dans un pays de viticulture. La viticulture, ça couvre 5% de la surface agricole de la France et ça consomme 20% des pesticides. D'accord ? Voilà, c'est un vrai problème.
Un ratio.
C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits, il y a d'autres régions de France où on regarde combien il y a d'engrais et ça fait le test sur ce qu'il y aura comme pesticides, parce qu'il y a moins de pesticides. Donc voilà, donc ça c'est un élément clé. Je vous rappelle l'émission qui vient de se sortir sur Cache Investigation sur les pesticides. Et il y avait, voilà, il y a une école en Gironde, elle est entourée de vignes. Les gens, ils avaient pris quelques mèches des enfants, ils avaient fait analyser, il y avait des résidus absolument incroyables. Cette émission a déclenché, rien que par les réseaux Facebook, sans qu'il y ait personne qui a appelé, même aucune association qui a appelé, une manif de 600 personnes disant maintenant ça suffit. Vous allez arrêter de mettre des écoles en plein milieu et s'il y a des vignes en plein milieu, elles deviennent en bio. Enfin, c'est pas possible. Et donc, si vous voulez, on a ici un phénomène analogue, un peu moins fort, quoi. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas d'école tout près des. Voilà. Mais donc, il faut savoir ça. Donc, c'est pour ça qu'une des raisons clés, c'est effectivement d'accélérer les passages en agriculture biologique sur un certain nombre d'endroits. Voilà. Une des choses qu'on avait fait, enfin, j'avais refait une liste, une candidature en 2008, j'avais fait une liste municipale, on avait dit une chose essentielle, c'est il faut créer une ceinture verte. Une ceinture verte, c'est quoi? C'est vous, autour d'une ville, vous mettez un endroit où vous faites que de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il y a des terrains, mettons, de la commune qui sont que si on est en agriculture biologique. Résultat, les eaux en dessous, vous arrêtez de les polluer, donc au bout d'un moment, elles finissent par se dépolluer, vous n'avez plus vos traces de pesticides. Du coup, vous avez aussi un approvisionnement local en bio pour la ville, c'est bien, enfin, etc. Il faut avoir comme ça des visions globales de la manière dont on construit une ville et dont on construit un urbanisme pour tirer les éléments positifs de tout ça.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire à l'instant Mme Arditi, effectivement. Une vraie politique faite urbaine qui, malheureusement, n'existe pas encore. En fait.
Oui, on en est loin, apparemment. Mmh. Mais là, vous disiez, par exemple, une ceinture verte bio. OK. Mais ça sous-entend qu'au-delà de cette ceinture verte, il va encore se passer un certain nombre de choses qui seront pas purement écologistes.
Non, mais bien sûr. Si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on voit bien que dans la viticulture, les passages en bio s'accélèrent. Alors, ils s'accélèrent pas seulement parce que les gens, ils entendent... Alors oui, il y en a qui accélèrent parce qu'ils entendent, il y en a parce que... Non, c'est pas un effet de mode. Par exemple, si vous voulez, il y a un effet extrêmement fort qui a été repéré par des études. Quand les femmes tombent enceintes et qu'elles n'ont pas mis les gamins, elles commencent à se dire, bon, attends, mais on peut peut-être faire attention à ce qu'on lui donne à bouffer.
Elles deviennent plus conscientes de ces problèmes
de qu'est-ce qu'on mange. Donc, et les viticulteurs, eux, il y a un autre phénomène qui est en train de se passer. Ils sont en train de sortir d'une crise très, très dure, bon, vraiment, qui a été très difficile. Et en fait, ils se rendent compte que tous ceux qui étaient en bio ont traversé la crise dans des bien meilleures conditions.
Alors, donc c'est un attrait économique. Là.
C'est peut-être pas idiot, finalement. Finalement, c'est peut-être un peu difficile. Il y a 3 années difficiles, etc. Mais à la fin, je vends mon vin un peu mieux. Je le vends un peu plus cher. Les gens, je peux leur garantir qu'ils peuvent le boire en étant raisonnable et en ne me vendant pas des tonnes, mais de manière agréable. Enfin, voilà, il y a des choses qui montent dans ce côté-là. C'est indéniablement.
Je consomme moins de biens intermédiaires, donc j'augmente ma valeur ajoutée, etc.
Dernier mot peut-être, Maryse Arditi, la polémique qui règne aujourd'hui sur la commune de Port-la-Nouvelle à propos de la plage de la Vieille Nouvelle, quel regard jetez-vous sur cette polémique et sur ces gens qui veulent continuer à pouvoir aller en voiture sur la plage ?
Alors, on va dire que la loi l'interdit depuis maintenant
pas mal d'années.
25 ans.
Pas mal d'années.
Voilà. Sur l'ensemble de l'Atlantique, il y a à peu près, peut-être une encore, je ne sais plus, mais sinon il n'y a plus une seule plage où il y a des voitures. Sur la Méditerranée, il y en a encore un peu, mais c'est en voie de régression. Sur l'eau d'elle-même, Fleury et Leucate ont déjà sauté le pas. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas ça, ils appliquent la loi. Hein.
Oui,
ça paraît extraordinaire.
Ils appliquent la loi.
Voilà. Et donc, on va appliquer la loi. Alors, je sais que ce n'est pas simple. Hein, parce que quand on dit on va appliquer une loi, on dit, bon, ben, puisqu'elle ne veut pas aller sur la plage, où c'est que les voitures se garent? Donc, vous avez la main, vous dites, il faut arriver à trouver des lieux de parking. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. Un peu plus loin, un peu moins loin, pas trop loin, qu'on puisse marcher confortablement. Enfin, donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué, hein, indéniablement. Et c'est encore plus compliqué pour la plage de la Vieille Nouvelle parce qu'elle est très longue. Elle fait 6 km. Et les gens avec leur voiture, ils disaient, ce qu'il y a de bien, c'est que moi je suis 3 km, 4 km sur la plage et je vais à un endroit où il n'y a plus personne. Alors le prochain, il continue, il fait 5 km, il va encore un peu plus loin. Donc je veux une plage sauvage, pas gardée, vierge, mais je veux y aller avec ma bagnole. Mmh. Et à un moment donné, il faut choisir une plage. À côté, il y a une plage, pour l'instant, il y a encore les voitures à côté. Ceux qui veulent mettre la voiture, ils prennent la plage d'à côté. Mais non, c'est ça le problème, quoi. On est tous consommateurs et citoyens, quoi. On veut des produits pas chers, mais bio. Eh ben, on veut une plage vierge, mais pour nous tout seuls avec la voiture. Bon, voilà, c'est ça qu'il va falloir changer. Alors, Il y a des choses qui sont en train d'avancer. Je vous fais un scoop.
Alors, on vous écoute.
Éclat fait une réunion publique. C'est pas encore sur notre site, mais ça va être demain, voilà. Mais Éclat fait une réunion publique le 31 mai en soirée. Comme on fait, alors c'est pas une réunion, on la fait pas spécialement parce que c'est qui sera sur la circulation des véhicules automobiles dans les espaces naturels, de manière générale, avec l'État qui viendra rappeler c'est quoi la loi, avec le conservatoire qui viendra rappeler comment ce qu'on va faire pour la nouvelle, avec le parc qui expliquera ce qu'il fait sur toutes les plages de l'Aude, enfin etc. Alors c'est pas une provoque, c'est chaque année deux fois par an on fait une réunion d'information, une à Narbonne, une à Carcassonne. Sur une thématique donnée. Alors les deux, trois dernières, on avait dit qu'on les centrerait sur climat. Donc on a eu climat et biodiversité, on a eu climat et submersion marine, on a eu climat et taffeta, voilà. On avait eu une autre fois, on avait eu un truc sur les pesticides, enfin voilà. Donc chaque année, on fait deux réunions. Donc celle-là, elle sera donc en fin mai, et elle sera sur la circulation des véhicules automobiles. Donc il y aura,
voilà,
entre autres...
elle est en plein sur le sujet.
Donc elle, entre autres...
Voilà, eh bien écoutez, merci Marie Zarditi d'être venue nous apporter ce regard écologiste au milieu de toutes les vicissitudes qui ont été décrites par vous et sur lesquelles vous avez donné votre ressenti. La prochaine émission de Radio Barque, nous verrons, nous recevrons plus exactement Jean-Pierre Grotti, écrivain de terroir, d'ailleurs se qualifie-t-il lui-même également. Merci et à la semaine prochaine.
Merci.
Thank you.